problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que vous êtes tous rendus compte que mon animal fétiche a eu un peu de retard, mais je l'ai retrouvé, ne vous inquiétez pas.
Pas de tricheur dans l'équipe, tout le monde se donne à fond et surtout on est bien quadrillé par le coach aussi.
Si j'aurais marqué mes deux pénaux aussi, je serais le meilleur buteur déjà. Avec Desi, comme je l'ai dit autrefois, je serais au Real.
Jusqu'à minuit,
c'est l'Afterfoot, Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'After, c'est jusqu'à minuit, on va décrypter l'actualité du football, mais aussi faire des bilans, c'est la saison, on vous attend au 32-16 pour échanger avec nous, pour nous donner votre vision du foot. Bienvenue donc dans l'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football ne pense peut-être même pas encore tout bas. Et pour nous accompagner ce soir, l'aigle de Carthage, François Manardo, bonsoir.
Oh, merci à tous, salut les amis.
Le goéland argenté de Boulogne-sur-Mer, Damien Périnel.
Bonsoir.
Tu préférais celle d'hier.
Ouais, c'était mieux hier.
Et le Tadorn de Corée, Jonathan Macardy.
Salut les gars.
A priori, le Tadorn, a priori, c'est un animal endémique de Corée. Je cherchais forcément à rester sur les oiseaux. Donc voilà. Durant cette émission, on va faire les bilans, pas seulement de 2019, mais aussi d'une décennie que l'on est sur le point de conclure. On vous demandera vos coups de cœur, vos meilleurs joueurs, votre entraîneur de la décennie, mais aussi votre plus grande victoire, votre plus grande désillusion. Dans la deuxième heure, on parlera de la Coupe de France. C'est dans une grosse semaine que la fameuse magie va opérer. Les petits poussets, les amateurs qui se frottent aux pros de la Ligue 1. On fera le point sur le mercato avec Valentin Jamin. Et puis à 23h, on ira en Angleterre. Une énorme journée de Première Ligue s'est déroulée aujourd'hui à l'occasion du Boxing Day. On terminera avec le quiz de l'After. Appelez-nous au 32-16 pour participer et pour jouer avec nous. Et justement, on a quelques directs en cours, à commencer par le Boxing Day, la Première Ligue. C'est parti entre Leicester et Liverpool. Aurélien Tirsa.
Et bonsoir, 1 minute 45 secondes de jeu, 0-0 entre Leicester et Liverpool, le deuxième contre le premier, les Reds qui peuvent écraser donc cette Première Ligue. Et déjà deux belles occasions pour les Reds, une frappe d'Alexander Arnold bien captée par Schmeichel en deux temps, et puis Salah après une minute seulement de jeu qui centre pour Mané qui est tout seul devant Kasper Schmeichel, mais il s'est un petit peu trompé de surface de pied, Sadio Mané, le ballon qui passe à côté. Liverpool qui attaque très très fort au King Power Stadium, 2 minutes de jeu, 0-0.
On rappelle que Liverpool est en tête de la Première Ligue avec 10 points d'avance justement sur Leicester. En cas de victoire ce soir, Liverpool prendrait clairement une option encore plus importante sur le titre. Les résultats de cet après-midi, Tottenham 2 Brighton 1, Bournemouth et Arsenal ont fait match nul 1 partout, Aston Villa a battu Norwich 1-0, Chelsea s'est incliné 2-0 à domicile face à Southampton, Crystal Palace a battu West Ham 2-1, Everton a battu Burnley 1-0 pour la première de Carlo Ancelotti, on en parlera tout à l'heure. Sheffield United Watford 1 partout, United a explosé Newcastle 4-1, et puis actuellement on l'a dit, Leicester Liverpool avant demain Wolverhampton City. Puis il y a un petit peu de basket aussi aujourd'hui, c'est la 16e journée d'Euroleague avec l'ASVEL qui joue contre Khimki. On l'a appris très récemment autour de cette table, c'est l'équipe de Moscou.
Khimki, c'est l'équipe coréenne.
Salut Timothée, bonsoir. Salut messieurs, Jérémy. Bonsoir. Salut. À tous. Khimki Moscou, c'est l'autre club de Moscou. Il y a le CSKA, champion d'Europe en titre. Et il y a donc le Khimki, équipe à ne pas négliger pour l'ASVEL. Vous arrivez à la fin du premier quart-temps, messieurs. Il y a 24 partout entre les deux équipes. L'ASVEL 9e contre le Khimki Moscou 7e dans une salle comble ici à Astrobal à guichet fermé. L'ASVEL qui reste sur deux victoires à domicile en Euroleague face à Milan et face à Berlin. Au milieu, il y avait une défaite à Barcelone. L'ASVEL qui a concédé sa première défaite de la saison lundi soir en championnat sur le parc du Mans. Après 14 victoires d'affilée, les Villeurbanne qui veulent retrouver le top 8 européen en cas de victoire ce soir, équilibrer leur bilan après 16 journées, ça ferait 8 victoires et 8 défaites. Mais attention, en face il y a donc le Khimki Moscou, deuxième meilleure attaque de la compétition et qui a dans ses rangs le meilleur marqueur de l'Euroleague cette saison, Alexei Shved. Et à noter qu'on fête ce soir la 100e du coach Villeurbanne, Zvezdan Mitrovic, sous le banc de l'ASVEL. L'ASVEL qui donc tient tête pour l'instant au Khimki Moscou. Il y a 24 partout à l'issue du premier. certain.
Merci beaucoup, Jérémy.
Ça fait, on dirait que c'est une boîte de strip qui les sponsorise. Kim Ki.
Bah, CSK, je te laisse mettre de tes propos, je ne les fréquente pas.
Ça nous parle à tous, mais Kim Moscou. Non, mais c'est pas toi qui va faire le.
Hein non, la Vierge bon, d'accord. Merci beaucoup, Jérémy Danzé. En tout cas, l'un des tout meilleurs gardiens de football amateur avec lequel j'ai eu l'occasion de jouer, Jérémy Danzé.
Vraiment. Mieux que Jean-Louis Tour.
Bien, bah, amplement. J'ai jamais joué avec Jean-Louis Tour, mais je l'ai vu faire. je peux vous dire que Jérémy est nettement supérieur. On va passer au football. On est en train de boucler une décennie de football. On a donc d'essayer de faire le bilan un petit peu.
On est obligé de mettre de la musique horrible comme ça là pour.
Ah, on fait le bilan.
C'est horrible.
Ça, c'est la musique que t'as au Kim Ki.
Ouais, c'est horrible.
À Moscou, ça m'étonnerait. On a donc décidé de se pencher autour de cette table. Et puis avec vous, auditeurs, vous n'hésitez pas à nous appeler au 3216, également sur Twitter, une décennie de foot pour nous dire ce qui vous a le plus marqué. Et on a voulu commencer par la plus grande victoire. Messieurs, autour de cette table, pour vous, quelle est la victoire de la décennie? Ça peut être une victoire française, ça peut être de la Ligue 1, ça peut être de n'importe quoi. Jonathan, ta première victoire,
tout le
victoire, allez, la plus importante.
On a vu en Val de Longchamp de la France.
Franchement, c'est la victoire contre Rennes 3-1 au Vélodrome avec l'ouverture au score de Gabi Heinze. Rennes qui égalise par Jimmy Briand qui après va à Lyon. Le 2-1, c'est un but de l'inévitable Mamad Niang. Le 3-1, c'est Lucho González et Marseille est champion de France 2010.
Donc forcément un choix orienté par le cœur. Le cœur parle.
Disons que c'est la victoire qui m'a fait le plus vibrer.
La victoire qui t'a fait le plus vibrer.
C'était Gilbert qui commentait. Je pense que sur RMC, je pense qu'il y avait Eric aussi.
Oh quel fou. Il y avait incroyable.
C'était Gilbert et Flo Germain.
Il a choisi le match
pour passer la main dans le dos, c'est l'émission. Voilà. Non, c'est, alors les commentaires c'était. J'ai le souvenir très précis parce que j'ai sauvegardé le podcast. C'était Gilbert et Flo Germain. Et il y avait Eric dans le qui était le troisième homme.
Consultant. Je comprends complètement ce choix du cœur, mais et si tu élargis un peu plus là, consultant dans l'after, allez, le spectre est un peu plus large. Sors un petit peu de Marseille.
D'une part, je fais ce que je veux, et d'autre part, c'est la victoire contre Rennes, c'est tout. Chacun choisit ce qu'il veut pour moi.
Si c'est ce qui fait battre ton cœur,
la victoire contre Leipzig avec le but de Saka à la dernière minute, si tu veux. On sait là, on fait le bilan, on va pas se cacher, ça c'est un truc très franco-français de dire oui, je n'ai pas d'équipe de cœur. Non, là,
moi je trouvais que c'était le tibia de Roland. Le front de bois de Rolando.
Non, le but de Saka, sinon. Mais non, évidemment, la victoire contre Rennes.
François, ta victoire de la décennie.
Oui, moi, j'avais tellement à choisir, mais une victoire qui m'a marqué sans qu'il y ait de trophée au bout, c'est c'est pas une victoire, mais c'est une défaite. Mais au bout, il y a une qualification. Le match de l'Inter Milan au Nou Camp contre le Barça, contre ce Barça, et l'Inter qui est réduit à 10 à la 28e minute avec l'exclusion de Thiago Motta. Samuel Eto'o qui se reconvertit sous les ordres de Mourinho latéral droit et cet Inter qui résiste. Voilà, moi ça m'avait marqué. Après, il y a beaucoup d'autres choix.
Mais c'est vrai que j'y avais pensé à cette victoire effectivement parce que à ce moment-là, on tressait tous
c'est un moment
des
où on
lauriers.
Très tôt en arrière. Il était en 2010. Jonathan, moi je suis en 2010 aussi. C'est en avril 2010.
Ouais, effectivement, ça remonte très tôt. Et surtout, c'est la capacité d'un ego, celui de José Mourinho, à dire à un autre ego, pour gagner, tu vas te mettre arrière droit. Parce que Samuel Eto'o, fallait quand même le convaincre de jouer arrière droit.
Oui, mais c'est une demi-finale de Ligue des Champions.
Ouais.
C'est une demi-finale retour de Ligue des Champions à ce niveau-là. Et puis bon, le Mourinho de l'époque est peut-être un autre manager que celui d'aujourd'hui. Ces joueurs, je pense qu'ils se défonçaient pour lui. Et ils le font, et c'est une demi-finale de Ligue des Champions. Ils savent qu'au bout, et ça marche, puisqu'ils sont champions d'Europe dans la foulée en battant le Bayern de Munich. Ouais.
Et d'ailleurs, je crois qu'il y a Samuel Eto'o récemment qui a dit, une fois, on m'a demandé de nouveau de jouer arrière gauche ou dans un schéma à 5. Et il a dit non, est-ce que Mourinho qui est capable de me faire jouer
cette fois, c'est ce Barça, pas capable. C'est aussi ce Barça-là de l'époque. D'ailleurs, ouais. Piqué qui rate la balle de la qualif dans les derniers instants. Ce Barça-là est imprenable.
C'est le meilleur. Après, si on est tout à fait objectif, est-ce que la plus grande victoire de la décennie, c'est pas le FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain?
C'est ça.
On
arrivait dans les désillusions aussi, du coup.
Tu nous as mis Gilbert, Eric, l'Olympique de Marseille. Et pas mal, hein.
Damien.
Non, pour moi, c'est le France-Ukraine, le 3-0, le match retour.
Et la qualif.
Ouais, la qualif, et qui, pour moi, en fait, est vraiment fondateur de tout ce qui est arrivé par la suite.
Ah, c'est un basculement, ouais.
Parce que c'est vraiment, ouais, là, si tu gagnes pas.
Rien de tout ce qu'on connaît ne serait arrivé.
Bah, c'est-à-dire que je suis même pas sûr que Deschamps soit encore sélectionneur derrière. Non, mais il est plus là.
Il a fait des sécours.
Et je pense que le foot français est peut-être encore plongé aujourd'hui dans un marasme post-Nasna.
Post-Nasna, ouais, effectivement, c'est possible. Moi, j'avais noté la victoire de Liverpool la saison dernière en Ligue des Champions. Là aussi, il y a un peu un choix
contre
du cœur.
Contre Barcelone ou contre Tottenham?
Celle de la victoire en finale.
En finale, donc,
contre,
le match contre le Barça.
Parce que le match n'est pas grandiose, mais là où je rejoins un petit peu dans le choix de cette victoire, c'est que je rejoins Jonathan, c'est que après Saint-Etienne, mon équipe de cœur, c'est Liverpool, et que Liverpool n'avait pas gagné de trophée majeur, n'a toujours pas gagné la Première Ligue depuis longtemps. J'ai eu la chance d'être à la finale perdue de Kiev, j'avais la chance d'être à cette finale à Madrid, et ouais, franchement, j'avais la gorge serrée à la fin de la rencontre.
Et vous voyez comme on est obligé d'être subjectif, parce que je vous parle du match de la remontada du FC Barcelone. Objectivement, c'est un exploit, c'est un match incroyable. Mais bon, si on fait rentrer la subjection, à dire oui, on est français, donc Paris, machin, blabla et tout. Mais c'est un match.
Ce qui est marrant, c'est que personne autour de cette table n'a cité la victoire de l'équipe de France en 2018 en finale de Coupe du Monde.
Bon, moi, parce que j'en ai connu, mais vous aussi, une avant vous, même si je suis le plus vieux autour de la table, mais la deuxième, elle a beaucoup moins de saveur. Si on fait.
Si on a la machine à voyager dans le temps et qu'on est le 26 décembre 99, évidemment que je te mets la victoire contre le Brésil. Ouais, qui est une grosse occasion pour Liverpool.
Évidemment.
On y reviendra. On va accueillir Aurélien. Aurélien, il est supporter du Paris Saint-Germain. Bonsoir, Aurélien.
Salut messieurs.
Salut Aurélien.
Salut Aurélien.
Cette période des fêtes est bien entamée avec la première partie, le premier round. Là, les fêtes de Noël en attendant le réveillon.
Ouais, je suis bien là. On est demain c'est mon anniversaire, donc voilà, ça prend.
Anniversaire par avance, ça remonte pas tant.
Que tu veux dire. 38 ans demain ou 39 ans demain.
39 demain.
Ouais.
Ah, quelle chance.
Et ouais.
Alors, quelle est pour toi la plus grande victoire de la décennie?
Alors, pour l'équipe de France, évidemment que ça reste la Coupe du Monde. Mais sinon, en tant que supporter du PSG, on se replonge le 11 mars 2015 à Chelsea. Kai couvre le score. David Luiz contre son ancien club qu'égalise. On arrache les prolongations.
Et Thiago qui marque.
Et Thiago Silva. Et on joue à 10 depuis la 30e minute avec le carton rouge d'Ibra.
Bien trouvé ça.
Et celui-là, franchement, en termes de. Une sensation, c'est très très fort cette année-là. D'ailleurs, juste une question, est-ce que c'est pas là qu'on est éliminé par le Barça en quart de finale? Parce que si c'est cette année-là où on est éliminé, on est volé littéralement. Non, c'est pas cette année-là.
Non,
on se qualifie en quart et on perd contre qui après, je m'en souviens plus.
Non, je pense que quand vous faites les deux nuls contre Barcelone, City. Vous avez sorti Valence en 8e ou Bayer Leverkusen.
C'est
quand vous jouiez les quarts déjà.
C'est City.
Mais je crois que c'est City. Qui est un beau raté.
Ah, le 3-5-2 de Laurent Blanc, le Serge Aurier.
Mais bon, bref, ça c'est un mauvais souvenir. Mais sinon, le match Chelsea-PSG, c'est très très fort en termes d'émotion, quoi. Vraiment.
C'est vrai que c'est bien trouvé parce que c'est aussi un match, là en y réfléchissant, un match qui m'a marqué sans être ni pro ni contre. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain, c'est un club voilà, pour lequel j'ai ni affection ni ressentiment. Et c'est vrai que c'était un match assez fondateur cette année-là. On y a d'ailleurs peut-être cru avec cette force de caractère sur ce match-là.
C'est vrai.
Alors, on va en profiter du fait que tu sois là, Aurélien, pour faire la transition.
C'est éliminé par le Barça.
Éliminé par le Barça.
Ouais. Mais les deux défaites.
Le match de David Luiz. Il va se faire des piqûres en Russie et il se fait passer comme un bleu par
le match. Tu fais deux matchs nuls, c'est ça, aller-retour?
Non,
le match où tu fais deux matchs nuls avec le but de Matuidi à la dernière seconde et Pastore qui ouvre l'ouverture du score en Nou Camp, c'est saison d'avant.
Et on va donc basculer
Je perds à domicile contre le Barça.
Tu repères
2-0 là-bas.
Tu prends 2-0.
Et Neymar d'ailleurs met un doublé.
Juste avant de passer à la plus grande désillusion, on a un petit cadeau pour Jonathan McCarthy.
Il n'y a plus de gardien, Mitroglou, il n'y a plus de gardien, faut la mettre devant, Lopez, il n'y a plus de gardien, Lopez, l'euro central, le ballon décalé, il n'y a plus de gardien, les gars, ça caille, faut frapper, ça caille, c'est le but, c'est le l'Olympique de Marseille est en demi-finale de la Ligue Europa.
Avec un grand coach à l'époque, Jonathan.
Dans le but
oh oui, un très grand entraîneur. Rocancourt. Rudy Rocancourt.
Jeannot Rességuier au commentaire de cette rencontre.
Après, ils ont joué une vraie équipe en finale.
Vous savez ce qui est terrible, c'est qu'il y a pas ce match-là. Et quand on commente pas, on doit descendre en zone mixte avant la fin. Donc on rate les buts.
Ouais.
Voilà. Donc on rate les renversements de situation et les.
Est-ce que tu avais vu mon copain Romain Canuti en zone mixte après le match?
C'est possible.
Faire son petit message à Jean-Kévin Augustin là.
Ah oui.
Qui avait marqué, qui avait dit chute, et puis après Romain l'avait bien chambré en zone mixte, ça faisait bien plaisir.
On va passer avec Aurélien à la plus grande désillusion de cette décennie à tes yeux.
Bah. En fait, évidemment que c'est évidemment quand en tant que supporter du PSG, c'est le Barça, parce qu'au-delà d'une désillusion, c'est un vol manifeste et en ça, ça reste vraiment en travers de la gorge de les voir fanfaronner, de les voir faire des reportages là-dessus, mais je veux dire à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire.
Mais bon, ils se font sortir après de manière.
Elle est horrible. Non, mais peu importe. En fait, c'est franchement, c'est dégueulasse.
Et attends, est-ce que c'est pas pire qu'en Manchester United?
Bah, en fait, si. Bah,
c'est
bien
pire qu'en United.
Mais oui,
c'est la honte vraiment qu'en United.
Oui, ouais, mais il y a une chose que tu ajoutes dans cette déroute-là.
Il y a le 4-0 de l'aller quand même.
Il y a le 4-0 de l'aller et il y a une chose supplémentaire. Mais vas-y, Sébastien.
Non, j'avais le choix entre les deux, mais le Barça, c'est pire dans le sens où on est volé.
Et en fait, il y a tout dans ce match.
Le sentiment, il est pire quand t'es volé. Bah non, mais attends, s'il te plaît.
T'es volé sur le penalty, sur
l'arbitre, il est terrible.
Franchement, c'est l'un des plus gros scandales d'arbitrage ces dernières années.
Non, mais il y a une équipe qui a laissé quelque chose au vestiaire.
Non, mais même pas.
Il y a 2-0 à la mi-temps. Il y a 2-0 quand même. Et alors il me semble après il y a Messi qui marque un penalty quand il rentre machin, donc ça fait 3. Ensuite il y a Cavani qui marque, ça fait 3. Ouais.
Que l'arbitre ait voulu passer des vacances en Catalogne.
Et là t'as Di Maria et machin, ça fait 3. Mais c'est terminé derrière.
Mais bon, il y a une équipe qui a laissé,
c'est le match de 3-2. Il marque à la 96e, 97e. Non mais au bout d'un moment, ça
rince. Sur Suarez, s'il vous plaît.
Aurélien, j'ai l'impression que tu souffres avec nous et c'est pas le but. T'es pas venu là pour souffrir, ok. Donc si tu veux, passe à
l'autre. Non mais il y a une chose supplémentaire. Dans cette élimination, c'est que indépendamment, alors je pense que celle contre Manchester est encore plus difficile à aller, mais celle contre Barcelone, c'est que tu inventes une nouvelle statistique dans l'histoire des Coupes d'Europe. Exact. Puisque je me souviens très bien, après le 4-0, c'est pas 99%, c'est 100% de chance de te qualifier.
Avec un arbitre bidon, tu peux inventer des statistiques.
Je pense bien qu'il n'y a pas que ça. Hein, quand tu vois le comportement de Thiago Silva, notamment, tu te dis que tu l'as un peu tendu le bas de bras faire battre.
Mais on a le droit d'être tendu.
Kevin Trapp,
c'est un peu lui qui dit au gros bloc de descendre alors que Emery voulait que le bloc joue
détendu.
Mais bon, franchement, moi je trouve que contre Manchester c'est pire parce que tu gagnes. Alors certes, tu gagnes avec moins de marge au match aller, mais c'est le Manchester de cette époque-là est au fond du gouffre. Toi, le PSG à ce moment-là, on est tous charmés par ce que fait Thomas Tuchel à l'époque. On se dit tout ça, il a vraiment le groupe en main, l'équipe joue magnifiquement bien. Et en fait, là, tu joues contre l'équipe pas B, mais contre l'équipe C de Manchester.
Ouais, c'est la honte.
Et donc, ton autre désillusion, Aurélien ?
Bah, évidemment, France-Portugal à l'Euro 2016. Ouais. Ça passe pas, quoi. Ça,
le poteau de Gignac, putain.
Ça revient beaucoup sur Twitter. Ça revient beaucoup sur Twitter.
Je suis vite passé à autre chose parce qu'on gagne la Coupe du Monde derrière. Et en fait, limite, mais si on n'avait pas gagné la Coupe du Monde derrière, là, j'y penserais encore tous les jours.
Je peux comprendre.
Ce France-Portugal. voilà.
Merci beaucoup, Aurélien, d'avoir été avec nous.
Joyeux
anniversaire par avance.
Et oui, c'est gentil, les gars.
Demain, messieurs, autour de cette table, votre plus grande désillusion, François.
Ça va être original. Nice, na. Pas besoin d'en ajouter.
Douleur.
Ça fait 10 ans.
Professionnel, personnel, c'est un tout.
Oui. Là, puis c'est un tout, et puis c'est pas que personnel. C'est tout le monde ici autour de la table, et même les auditeurs, et tout le monde.
Non, c'est une barre de honte.
J'étais
en Afrique du Sud, et j'avais un peu
Français. Dans l'histoire du sport, tu sors du foot. C'est le plus grand drame, la plus. Voilà. Donc voilà.
Damien,
pas faire long.
Moi, je vais faire un truc un peu original. Pour moi, c'est le 7 hein, de l'Allemagne. La Coupe du Monde du Brésil. D'autant plus que derrière, t'as l'Argentine qui passe. Et ça peut te faire un Brésil-Argentine au Maracanã. En finale de Coupe du Monde, je veux dire, c'est le genre la de finale rêvée, que ouais. tout le monde attendait. Et là, incroyable en fait cette.
Et qui se transforme en triste finale, 1-0 en faveur ouais. de l'Allemagne ouais. face au.
Puis dans
face
les prolongues, moche.
Ouais, pas un beau match. Ouais. Effectivement, déception. On avait promis une belle affiche et on l'a pas eu. Jonathan.
Il y en a deux. Le premier, c'est que l'OM de Bielsa ne finisse pas sur le podium. Et la deuxième, c'est l'Euro 2012 de l'équipe d'Irlande. On est en poule. La poule, elle est importante. Hein. C'est Croatie, Espagne, Italie. J'ai été au match à Gdansk contre l'Espagne où on prend une pile 4-0. Et très franchement, on était tous excités. Moi, j'étais avec mes cousins. On était tous excités d'être qualifiés parce qu'en plus la qualif, elle vient avec sur un truc un petit peu polémique. Le dernier match de qualification contre l'Arménie où on gagne d'une manière un petit peu, très très litigieuse. La fédération arménienne porte plainte après. Beaucoup de gens pensent que en gros, l'arbitre a essayé de compenser la main de Thierry Henry. La déception de la sélection hollandaise à cause d'un main de Thierry Henry. Donc tout heureux avec les boys in green d'aller faire cet euro. Au final, tu finis avec 0 points. C'était un petit peu compliqué, ouais.
Douloureux. Ouais. Moi, j'avais noté la claque 5-0 prise à Geoffroy Guichard à domicile face à l'Olympique Lyonnais. Là aussi, il y a une...
Ah, ça doit être dur, ça. Hein.
Ouais, voilà. Effectivement, il y a, c'est pas très, c'est lié à quelque chose de, à un sentiment. Pour vous raconter ma vie, ça fait des années que je fais ce métier de journaliste. C'est la première fois que je retournais dans le COP, alors que j'y ai passé mon adolescence avec mon frère dans le COP Nord, tout excité. Et, ce corner d'Amouma qui met le ballon dans les pieds, Fekir qui nous en met deux, le carton, bref, ça a été un cauchemar. Une soirée cauchemar. Je me souviens d'avoir eu beaucoup de mal à trouver le sommeil après cette soirée. Et ça reste un.
Attends, moi, je vais ajouter un truc. La finale, contre l'Atlético de l'OM. En ouais. Ligue Europa, c'est pas tant le match parce que le résultat on s'y attendait, mais c'est juste d'avoir passé cette soirée avec ces faux culs de Jérôme Roten et Daniel Riolo qui ont fait semblant à l'antenne d'être déçus alors que pendant tout le match ils m'en ont mis plein la tronche.
Voilà, les comptes sont réglés. L'after continue, évidemment c'est jusqu'à minuit. On va continuer de faire le bilan de cette décennie de football. On va faire un rapide tour du côté de nos lives avec notamment Leicester Liverpool. Aurélien Tiercin, 20 minutes de jeu.
0-0, c'est vraiment un super match, beaucoup de rythme, une grosse occasion notamment pour Salah qui avait dribblé Kasper Schmeichel et puis l'angle était trop fermé avec son pied gauche, il l'a mis dans le petit filet. Beaucoup de rythme, des occasions des deux côtés. 0-0 après 21 minutes de jeu.
Au rang des regrets, on peut quand même regretter que le foot français ne rapporte toujours pas une Coupe d'Europe au cours de cette nouvelle décennie.
Une Coupe d'Europe une Coupe d'Europe des nations,
un club. On se porte toujours mieux côté nation que côté club, ce qui est totalement paradoxal.
Effectivement. On va faire un petit tour du côté du basket. 16e journée d'Euroleague avec Jérémy Danvé.
Ouais, il y a du spectacle ici aussi à l'Astrobal. Match très offensif entre l'ASVEL et Khimki Moscou. 2 points d'avance pour l'instant pour l'ASVEL. À 3 minutes 10 de la fin de ce deuxième quart-temps. Ça fait 4 points désormais d'avance avec le 2 points de Jordan Taylor. Ça part bien pour l'ASVEL. Match très équilibré, mais l'ASVEL est au rendez-vous. Et messieurs, pour votre gouverne, sachez que Khimki n'est pas le nom, c'est pas un naming ou quoi que ce soit, c'est le nom d'une ville tout simplement dans la région de Moscou, le Khimki Moscou, comme on dit également l'ASVEL Lyon-Villeurbanne par exemple. Et puis deuxième petite information, moi si je dois vous donner le match de la décennie, je pense à un derby des journalistes sur la plaine des Jeux de Gerland, un derby victoire stéphanoise face à nos voisins lyonnais. Je me souviens plus du scénario, je me souviens du score, je me souviens d'un but de Timothée Mémon, sachez messieurs.
Mais il y avait un sacré gardien, c'est ça, dans les buts.
Nous justement on avait Jérémy dans la cave, voilà. Donc on était tranquille.
Conscient que ça n'intéresse personne, hein, ça les amis, hein. Et merci pour Khimki, hein. Je vais m'endormir moins pour
21h23, messieurs, l'after continue dans un instant. On va vous demander quelle est votre colonne vertébrale, un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant de la décennie et votre entraîneur de la décennie. À tout de suite dans l'after.
RMC, l'after foot, Timothée Mémon.
21h26 de retour dans l'after. On continue à faire le bilan. Vous n'hésitez pas à nous appeler au 32-16 pour nous donner votre avis. On va essayer de définir la colonne vertébrale de la décennie, l'entraîneur de la décennie qui est en train de se clôturer. Et puis tout à l'heure, on parlera du but de la décennie ou encore de votre surprise, de votre insolite. Si vous avez un souvenir un petit peu particulier, un petit peu décalé, on vous rappelle qu'à partir de 22h, on parlera de Coupe de France. À 23h, de Première Ligue, toujours 0-0 entre Leicester et Liverpool après 26 minutes de jeu. C'est donc la fin d'une décennie de football et on a décidé de se pencher sur une colonne vertébrale. On avait pensé à 11, mais ça faisait un petit peu beaucoup. Un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant. Damien, à toi l'honneur.
À la suite comme ça ou
on peut partir sur le gardien.
On fait les gardiens.
Donc moi je pars sur Neuer.
Normal. Ouais.
Neuer.
C'est aussi ce que j'ai noté.
Neuer.
C'est obligé.
Neuer. Effectivement.
Neuer.
Champion du monde.
Une anecdote parce qu'on a vu le match. Mais moi je me mets derrière son but. Porto Alegre, 8e de finale. Allemagne Algérie. Je suis avec la FIFA. Je me mets derrière le but des Allemands parce que je sens que je sais pas. Je me dis que les Algériens vont peut-être passer dans la prolongue. Ils poussent. C'est la première fois de ma vie que je vois un gardien jouer à la fois libéro et gardien but.
Ouais, c'était libéraux,
phénoménal. La lecture du jeu pour un gardien, c'est sorti. Puis tu as une masse comme ça qui sort comme une bombe sans faire de faute. Qui dégoûte les attaquants algériens. Ils avaient une belle équipe, l'Algérie.
C'est intéressant qu'il passe l'unanimité à ce point-là. Hein.
J'ai pensé à Buffon Neuer.
C'est obligé.
Ah, Buffon, il est dedans.
Les champions du monde,
on juge pas que les trophées.
Ah, mais en termes d'impression, il n'y a même pas photo. Quoi.
On est avec Saïd qui a fait le 32-16, aka Romario.
C'est un bon lui.
Supporter de l'Olympique de Marseille. Ton joueur le plus marquant, t'as pu faire une petite colonne vertébrale, comme ça on peut commencer avec le gardien avec toi. Pour toi, le gardien qui t'a le plus marqué?
Bah, j'en ai deux. Bonsoir les gars.
Salut Romario.
J'ai aimé Petr Cech.
Ouais.
Petr Cech, c'est un
ça
peu.
C'est bien aussi, ouais.
Mais c'est Petr Cech. Et sinon, j'aurais mis Yann Oblak. Yann Oblak parce que très costaud, quoi. Très, très, très costaud. Ouais. Et on ne s'attend jamais à lui. Et franchement, il les a. Je pense que si l'Atlético en est arrivé là où ils en sont, je pense qu'il y est pour beaucoup aussi.
C'est clair.
Je pense qu'il y est vraiment pour beaucoup. Plus que Courtois, plus que.
Ouais, t'as raison, mon pote. Hein. C'est ça, ouais.
Je pense que vraiment, il est.
Ce qui lui manque par rapport à Neuer, c'est le palmarès, juste.
Je pense que c'est ça, c'est tout. Il n'y a que ça qui peut lui manquer, mais aujourd'hui, s'il y a un investissement à faire, c'est sur un gardien comme ça. Quoi.
Ouais, c'est ça. Il lui manque de sortir sur une tête de Ramos en finale.
Écoute, je suis supporter du Real.
Mais Oblak, il a encore le temps aussi d'être le gardien de la prochaine décennie.
Ouais, et puis Buffon, quand j'en ai parlé, mais il est à cheval entre deux décennies, en fait.
Ouais, c'est un peu ça. C'était aussi d'ailleurs pour ça que Neuer s'imposait.
Buffon, il prend 8 titres de champion sur 10 ans.
Oblak, il a 26 ans.
27 titres, ouais.
Imagine.
Romario, on passe au défenseur. Ton défenseur.
Sergio Ramos.
C'est obligé, bien sûr.
Sergio Ramos.
Bien sûr.
Il n'a même pas défendu Sergio Ramos.
Mais on a tous les mêmes raisons en plus.
Avec les Ligues des Champions. Alors pourtant, c'est pas forcément un défenseur.
Est-ce qu'on peut mettre juste les trophées un peu de côté? Parce qu'à ce moment-là, on peut citer.
On s'en fiche.
Il a tout.
Il est là dans les grands moments.
Le caractère, la technique, le vice, c'est tout.
Mais en fait, moi, justement, chez un défenseur, il représente tout ce qui m'énerve, mais ce dont est nécessaire quand t'as un grand défenseur.
Tu veux partir à la guerre, tu veux l'avoir dans ton équipe,
bien sûr,
celui-là.
Il préfère l'avoir. Il a du vice, il a tout, il peut être énervant, il peut être bon, il est bon.
Et moi, je mettrais John Terry.
Il y a un défenseur qui a gagné autant de Ligue des Champions sur la décennie que Ramos et qui a été champion du monde.
Mais c'est pas le même métier.
C'est pas la même philosophie.
Mais cependant, je trouve qu'on minimise vachement Varane par rapport à
Il est très fort.
Et dans toutes les équipes dans lesquelles il joue, il gagne.
Il est très fort, mais Ramos, c'est un extraterrestre.
Ouais. Et toi, pour moi, le scandale, c'est de mettre Varane 8e au Ballon d'Or l'année dernière ou 7e.
Ça, pour moi, c'est un scandale. J'ai beaucoup aimé, même si il n'a pas gagné grand chose, j'ai beaucoup aimé aussi Diego Godin.
Ouais, effectivement, oui. Dans l'attitude.
Ouais.
Dans le style aussi. Tu aimes ou tu aimes pas, mais tu sens que c'est aussi des leaders d'équipe. Comme
et il y en a un autre.
On me souffle aussi toute une génération de défenseurs italiens, Cellini, Bonucci.
Alors moi,
c'est aussi des costauds. Hein.
Quand ils étaient à 3 avec Barzagli, Bonucci, Cellini, alors moi je ressortirais un tout petit peu Chiellini pour le côté un peu plus leader que Bonucci qui fait ce coup de pute hein, en allant au Milan AC. Ouais. Mais quand même cette défense de la Juve et ces trois là derrière.
Alors que le plus fort c'est Barzagli.
Pour moi Bonucci est le plus complet
c'est Barzagli.
Parce que c'est vrai que
techniquement
ouais avec le ballon
Bonucci que j'aime c'est Chiellini, il est meilleur quand même techniquement. Il y a pas photo
avec Bonucci. Ah non, je mets Bonucci.
Il est moins bon dans les duels, dans l'impact que Bonucci, il y a pas de souci, mais techniquement Barzagli c'est la classe.
Bonucci ça casse les lignes.
Damien, tu disais que ce que tu aimais chez Ramos c'est aussi l'attitude. Chiellini, il a cette attitude un peu méchante.
Exactement, mais
l'attaquant quand il arrive, il sait qu'il a pas passé une bonne soirée.
À la différence que Ramos lui pareil avec le ballon. Pour moi, un défenseur, voilà, aujourd'hui, bien sûr, il faut être un grand défenseur, mais il faut savoir aussi bien relancer.
Attends,
moi,
alors, vas-y, rapidement.
Bah, Gary Medel, parce que il est extraordinaire, et puis il est double champion d'Amérique avec le Chili.
Allez, en tout cas, on va faire juste un petit tour du côté de nos lives et notamment du côté du King Power Stadium, Aurélien Tiercin.
Et ça y est, Leicester a cédé sous la pression de Liverpool. 31e minute de jeu, un corner de repoussé par Ricardo Ferreira, récupéré par Trent Alexander-Arnold qui enroule un magnifique ballon au deuxième poteau. Tête piquée de Roberto Firmino, touché par Kasper Schmeichel, mais c'est au fond, un but à zéro pour Liverpool après donc 31 minutes de jeu. Liverpool qui avait déjà 10 points d'avance sur Leicester en tête de la Premier League avec un match en plus à jouer. Est-ce que Liverpool ne se rapprocherait pas encore un peu plus d'un premier titre en Premier League?
Mais c'est fait, arrêtez les gars.
Depuis 30 ans, effectivement, c'est une possibilité. Merci Aurélien. Tiens, on va retrouver Romario pour nous parler peut-être de ton milieu de terrain et de ton attaquant, puis on débattra du milieu de terrain autour de
cette table. Je pense qu'on aura les mêmes, encore.
Pas forcément.
Le milieu de terrain, je suis un peu mitigé. J'aurais dit, c'est très très Madrid, hein, c'est très Madrid. Ah. J'aurais dit, Casemiro pour ce qu'il apporte au jeu actuellement et ce qu'il a apporté sur la deuxième
sur partie, la décennie. Très
Madrid, sur la décennie, c'est un peu léger. Sur la décennie, c'est un peu léger, c'est sûr et certain. Maintenant. Sur la décennie, j'ai pas de milieu.
Ah bah si, dis la vérité, c'est Iniesta. C'est Iniesta.
Je suis pas du tout Barça, les gars, je suis pas.
Non,
mais tu t'appelles Romario.
Non, mais ça t'empêche pas, ça t'interdit pas.
Juste ça veut dire. Mais ça t'interdit pas d'apprécier la classe d'un joueur de cette
table. Avant de débattre autour de cette table du milieu de terrain, je vais te demander ton attaquant.
C'est R7, évidemment.
Cristiano Ronaldo.
Ok.
Cristiano, ça, il n'y a pas de débat pour moi.
C'est noté, on va en parler.
Et José sur le banc.
Et José Mourinho sur le banc. Il y a quand même débat avec André Pierre Gignac. Hein, mais...
Merci beaucoup, Romario, d'avoir été avec nous.
Ciao, Romario.
Ça va, les gars.
Ciao, bonne soirée. Ciao. Alors, on revient au milieu de terrain. Messieurs, vous aviez l'air de penser que c'était. Vous
Iniesta.
Étiez tous d'accord. Iniesta.
C'est le football, c'est tout.
Est-ce qu'on a déjà vu un joueur aussi intelligent allier autant d'intelligence, de QI foot et de technicité que Iniesta? Je pense qu'on est chanceux de l'avoir vu jouer.
Eh ben, moi, j'en ai un. Ouais. Qui a lié ça, mais qui a loupé sa carrière. C'est celui que j'avais noté parce que c'est celui qui m'a donné le plus d'émotions et de sensations, c'est Diego.
Le joueur qui
est passé par le Werder, qui est passé par la Juve, qui s'est rappelé à la Juve, qui est à Flamengo aujourd'hui.
Ouais.
Franchement, ouais, même titre que Lucho González, d'ailleurs, étaient deux joueurs qui, moi, m'ont toujours fasciné par l'élégance de leur jeu. Après, ils n'ont pas eu la carrière d'Iniesta, ils n'ont pas fait gagner des titres, non, si je te l'accorde. Mais dans la beauté.
Enfin, il avait une boule de cristal.
Il a gagné la
Libertadores
cette année. Il a été très bon, un joueur majeur, ouais.
C'est que Iniesta est pas grand, il est maigre, fin, et tout ce que tu veux, mais tu pouvais jamais l'attraper, il tombait jamais par terre, il voyait tout avant tout le monde, et puis ce qu'il voyait, il exécutait surtout.
Techniquement, enfin, il y a tout. Il y a tout et il y a même plus que tout, en fait. Il est extra lucide.
Je suis un peu comme Romario, je suis pas très Barça sensible, même si je suis conscient. De l'incroyable. C'est aussi ça. Il y a une part d'affect
telle intelligence de jeu. On peut pas dire oui, non, mais il y a même pas de mais quoi en fait.
Sinon, si tu vas par là, Riquelme a arrêté sa carrière qu'en 2014. Donc on peut le mettre aussi quoi, tu vois. C'est juste de l'esthétisme pur. Mais Iniesta, il a allié l'esthétisme au fait de gagner. Et sur la décennie, pour moi, c'est incontournable. C'est lui, c'est obligatoire.
Iniesta, vraisemblablement, aux yeux de tous, le milieu de terrain de cette décennie. On passe à l'attaquant.
C'est bien, t'as réussi à nous citer quand même Diego. Hein.
Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, franchement,
qui a fait sa petite rentrée avec Flamengo contre Liverpool. Il a servi à rien.
J'ai acheté le maillot de Diego, j'ai jamais acheté celui d'Iniesta.
Mais lequel? Voilà, quand il joue au Werder ou à la Juve?
Il joue au Werder.
Parce que la Juve, c'est un souvenir impérissable.
Bah, il faudrait que j'arrive à acheter celui de Flamengo. On passe à l'attaquant. Pour vous, votre meilleur attaquant, pas forcément un neuf pur. Hein. La ligne d'attaque.
On va être d'accord aussi.
La ligne d'attaque. Ah, on va être d'accord, je sais pas.
Forcément, débat.
Vraisemblablement, il y a deux choix et j'en aurai un troisième.
Messi.
François. Messi.
Messi, alors pourquoi pas Cristiano,
meilleur buteur de la décennie.
Pourquoi Messi? Parce qu'il y a quelque chose en plus. Il a les deux pieds qui sont nés dans le bénitier et que Cristiano est un surdoué avec une somme de travail monumentale, mais que Messi est un surdoué et qui est un extraterrestre. Voilà.
Cristiano, parce que il a les deux pieds, lui, mais il a la tête. en plus. Et au-delà de ça, il a réussi à faire gagner son équipe nationale.
Ouais.
Et ça, pour moi,
il joue 10 minutes, mais il fait coach adjoint
tout,
en finale.
Voilà. Non, ouais. Mais en fait, il inspire quelque chose d'autre, je pense, dans son équipe nationale, parce que
c'est vrai qu'il a réussi à porter son équipe là où Messi n'y est pas arrivé.
Il a fait une finale.
Mais le Portugal, c'est pas extraordinaire non plus en soi.
Mais il a raison, Damien.
Il est intrinsèque.
Il fait une finale. Pour moi, c'est Messi.
Messi.
Je pourrais être d'accord avec Damien, il y a des très bons arguments, mais en termes de talent pur, Lionel Messi, c'était obligé.
Mais justement, on parle de talent pur. Mais le talent, pour moi, c'est encore plus incroyable. Un mec qui a du talent et qui travaille 10 fois plus pour entretenir ce talent. Et je trouve que, pour moi, ça, c'est l'une des valeurs les plus importantes. C'est incroyable.
Écoute, quand je bossais avec l'équipe de France, j'en ai parlé avec Eric Abidal, qui était son coéquipier. Et qui me disait à quel point il était content d'être son coéquipier à l'entraînement et pas l'avoir en face de lui. Ce qui me dit, mais écoute, c'est simple. Et donc, je te parle de la fin des années 2010. C'est soit tu fais faute, soit il passe. Tu ne peux pas. Il a une distance entre dans sa course balle au pied entre le ballon et ses pieds que t'as pas la place toi de mettre un bout de crampon entre les deux. Donc, soit tu le chopes, et ben t'as faute. Soit le mec il passe. Et puis il va tellement vite et les changements d'appui sont tellement fulgurants. Il passe. Et Cristiano Ronaldo, je dis pas que c'est plus simple. Sûrement pas. On parle de deux monstres. La chance qu'on a, et tous la chance qu'on a, c'est d'être contemporain de deux des meilleurs joueurs de foot de l'histoire en même temps. Mais,
quel est le joueur?
S'il te plaît, Messi, 596 buts sur la décennie. Voilà, ouais. Ronaldo, 567.
Non, mais il y a le don en plus.
Oui, non, mais
quelque chose de.
Et toi, Tim?
Moi, j'avais noté Suarez. C'est le 4e meilleur buteur sur la décennie. Et là encore, le choix, il y a une part d'affect, c'est que j'ai toujours aimé les footballeurs avec un peu d'aspérité. Je suis
qui ont du Morgan.
Je suis plus Gaza que Gérard. Je suis plus Maradona que Pelé. Et j'aime le fait que ce soit en plus d'un attaquant extraordinaire, un pas un cassos, mais enfin un malade, quoi.
J'aime beaucoup Zlatan, mais
j'avais pas le mettre dans cela.
Carlos Tevez, j'avais pensé à lui. J'avais avec Kun Agüero, Carlos Tevez.
Suarez, c'est quand même le 4e meilleur buteur. Le 3e étant Lewandowski.
Il avait des bons ballons aussi.
À Liverpool, il était énorme.
Et Tevez qui revient à Boca et tout, l'histoire elle est belle quand même aussi.
Effectivement.
Mais Tevez est très très fort même quand il est. Enfin, moi je le découvre avec partout. West Ham, puis Manchester United contre Lyon. Tout ce qu'il fait est juste. Tout ce qu'il fait est propre, juste, efficace. Et c'est comme ça tout au long de sa carrière. Bon, après, avec City, ça se passe un peu moins bien, mais c'était un.
À la
tueur.
Il est fabuleux.
C'était un tueur. Mais on a parlé d'un joueur offensif.
Moi, la question que je vous pose, c'est pas forcément le meilleur, mais quel est votre joueur favori de la décennie? C'est pas forcément objectif.
Moi, étant encore une fois très Liverpool, Torres, quand il était à Liverpool, a été tellement incroyable et a tellement porté ce club. Et Suarez en fait partie aussi. Après, j'ai toujours eu beaucoup d'affect pour les 8. J'étais un grand fan de Deco. Un grand regret qu'il n'ait jamais eu le ballon d'or.
On a parlé des milieux, mais puisque tu cites Liverpool quand même, mention pour Xabi Alonso.
Ouais.
Ah bah oui.
Qui était grandiose à Liverpool.
Iniesta, mais Xabi Alonso.
Et vous votre joueur
chouchou? C'est Rooney. Parce que même si, en plus, il a pris sa retraite, là, soi-disant officiellement en 2018, mais c'est tout ce qu'il dégageait sur le terrain, en fait, cette joie de vivre, d'avoir toujours le sourire, de prendre le foot comme ça, mais comme un jeu, et de s'amuser sur le terrain. Je trouve que c'était vachement inspirant de voir ce joueur.
Jonathan?
Non, François, vas-y.
Ronaldinho Gaúcho, j'ai la chance de le connaître et je l'ai connu depuis en 99. Et la dernière fois que je le vois, je vous raconte rapidement l'anecdote, il est champion d'Amérique du Sud avec l'Atlético Mineiro et il dispute la Coupe du Monde des clubs au Maroc. Il joue la demi-finale contre le Raja Casablanca, ils sont éliminés. Et Rony avait fait un pari avec des joueurs marocains. Il leur a dit, si vous nous battez, si vous passez contre l'Atlético, je me fous à poil et je vous file les équipements. Je savais pas ce truc-là. Il me le raconte à la fin du match parce que à la fin du match, il termine, il rentre presque dans le tunnel, pas encore dans le vestiaire et je le vois se mettre à poil, quoi. Et deux joueurs marocains, les bras croisés, qui attendent comme ça, gentiment, religieusement, et il leur a tout filé. Il est pas ressorti, il est pas rentré la teub à l'air dans le vestiaire, excusez-moi, mais presque.
Magnifique.
C'est vrai que c'était un joueur sympa.
Mais c'était un phénomène.
Jonathan?
Moi, mon joueur favori de la décennie, c'est. Rigolez pas, mais c'est André-Pierre Gignac. J'ai jamais kiffé autant devant un joueur que devant Gignac. Et puis là, même ce qu'il fait sur la fin de sa carrière, il empile des buts, c'est des buts plus beaux les uns que les autres. Ouais, je sais que c'est très subjectif parce qu'il a joué à Marseille, tout ce que vous voulez. Mais moi, ce mec-là, il m'a fait kiffer.
Gignac, ça fonctionne. Mais je pense que tu partages cet avis avec Don. On va faire un petit tour du côté de Leicester Liverpool. 40 minutes de jeu un peu avant la mi-temps. Aurélien.
1-0 pour Liverpool. Il reste 4 minutes avant cette mi-temps. Grosse domination. Ça y est, on voit plus du tout Leicester Liverpool qui a complètement pris le contrôle du match. Le but Firmino à la 31e minute. Le nouveau corner de Trent Alexander-Arnold dégagé par la défense des Foxes qui sont en difficulté. Alors
ils prennent l'eau au milieu.
Ouais, c'est très compliqué parce qu'il y a l'absence de Fabinho, mais Naby Keita qui fait vraiment très très bien le boulot. Et là il y a aussi Ricardo Pereira, l'ancien niçois, qui est à droite, j'en profite pour le dire aussi, qui a été élu meilleur arrière droit de Leicester de la décennie, donc mieux d'ailleurs que lorsque Leicester a été champion. L'ancien niçois qui fait vraiment son trou en première ligue dans une belle équipe de Leicester cette année.
En même temps c'était Thompson l'arrière droit quand ils sont champions, donc bon.
1-0
bon,
donc en faveur de Liverpool. Leicester, c'est la mi-temps entre l'Asvel et Kimki. C'est l'Asvel qui mène 50-45. On revient dans un instant dans l'after. On continue à faire le bilan. Non, de après, la Zenithi, vas-y.
Après, alors. Non, après, reste avec
allez,
nous.
On fera une anecdote sur Gignac. On va vous demander quel est pour vous le but de la décennie et puis votre surprise, le côté, le fait un peu insolite qui vous a marqué sur cette décennie. 21h42, c'est l'after, c'est jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. Timothée Mémon.
Jusqu'à minuit, on va continuer à faire le bilan de cette décennie de football. Tout à l'heure, à partir de 22h, on vous parle de Coupe de France. À 23h, on revient sur le boxing dès la Première Ligue. Ce sera évidemment avec Julien, Laurence et puis le quiz de l'after en fin de soirée. Vous n'hésitez pas à nous appeler pour participer, jouer avec nous au 32-16. On continue à dérouler ce bilan avec le but de la décennie. Mais avant, on a fait un petit teaser, un petit happening.
Non, il parlait d'André Pergignac, Jonathan, il venait avec son saucisson dans ses premières sélections.
Il venait avec son saucisson.
Il venait avec son saucisson, ouais.
D'accord.
Il finissait les soins, et puis entre 23h30 ou minuit ou plus tard, il remontait, il tapait le saucisson dans la chambre, ouais.
Mais il y avait beaucoup de choses qui étaient permises.
Mais regarde pas, Timothée, je ne peux rien te dire là-dessus, je ne comprends pas.
On va donc chercher à définir ce qui est pour vous le but de la décennie. Là aussi, il y aura forcément une part de subjectivité. On va. Tiens, pourquoi pas avec toi, Damien, le but de la décennie.
Pour moi, c'est le ciseau retourné de Cristiano en quart de finale Real Juve. Enfin, à la Juve d'ailleurs, ou ouais. Victoire 3-0. Mais pourquoi ce but est tout simplement incroyable. Il va chercher le ballon, je crois, à hauteur de la barre transversale à 2m44 du coup. Ensuite, quand t'es gamin, tu dis forcément, t'as toujours envie de marquer un ciseau retourné tel qu'il l'a mis à la Olivier Tom. C'est un but à la Olivier Tom, ouais. Quoi. Voilà. Donc ouais. C'est pour moi, c'est le but de la décennie.
Et c'est vrai que le stade de la Juve s'était tu. Et pendant quelques secondes, avant d'applaudir, effectivement, c'était un moment incroyable.
Ça donne des frissons.
Ouais.
Jonathan.
Il y en a deux. Alors, il y en a trois, même. Je pensais au but de Ronaldo au ciseau. Après, je me rappelle du but de Saber Khalifa avec Evian contre Nice. Le but de 65-66 mètres. Le plus lointain, un des buts les plus lointains qui a été inscrit. Je pense qu'on était tous coachés sur notre canapé. Incroyable. Après l'heure, il va à Marseille et il fait rien du tout. Et je crois qu'il a bien réussi après en retournant au Blen. Hein.
Il est passé par la case golf peut-être avant. Ouais. Bon, moi je vais pas être original, mais c'est un ciseau retourné, comme Damien, et c'est celui de Zlatan avec la Suède contre l'Angleterre dans le match inaugural du nouveau stade, la Friendly Arena de Stockholm. Et alors c'est pas un centre, c'est un ballon, je crois, qui est renvoyé, mais
c'est le gardien qui est loin dans sa surface de réparation.
De la distance où il est, l'angle qu'il a, dos au but, réaliser ce geste, ok, mais que le ballon arrive à finir dans le but, encore une fois, c'est un but d'extraterrestre.
Un bijou.
Et Timothée, et le tien ?
Alors le mien, je vous retrace la chose, on est le 27 septembre 2010, il est 22h33. Kim Kallström fauche Loïc Perrin. L'arbitre accorde un coup franc. Dimitri Payet pose le ballon. Il l'enroule. Il bat Pierre Palmade qui est dans la cage de... Non, pardon, c'est Lloris. Qui est dans la cage de Lyon. Et Saint-Etienne gagne contre le cours du jeu. Le centième derby de l'histoire. Ça, c'était probablement moi ma plus grosse émotion.
Mais tu n'en es d'un point de vue esthétique.
D'un point de vue esthétique, après, je rejoindrais probablement le...
L'émotion, il y a d'autres choses.
Oui, il y a la part d'émotion qui prend le pas d'un point de vue esthétique, celui de Ronaldo, celui de Rooney aussi dans un derby d'ailleurs avec Manchester United, absolument splendide. Un autre ciseau d'école, il la prend peut-être un peu plus du tibia, un peu moins haut, un peu plus dans le style Rooney, mais j'aimais assez. Amine est supporter de l'OM, il a fait le 32-16 pour nous rejoindre. Amine, je vois que t'as un top 3, t'as décidé d'en choisir 3, on va te laisser le temps de nous expliquer ça.
Salut.
Alors, salut Amine.
Bonjour, bonsoir à toute l'équipe. C'était très difficile de choisir parce qu'il y a un panel exceptionnel en termes de buts, mais j'ai établi un petit top 3 personnel, hein, purement subjectif, et je pense que.
Vas-y, voilà, lance-toi, Amine.
Moi, je vois quel est le premier, donc effectivement c'est subjectif, et t'es supporter de l'OM, mais commence par le troisième.
Je pense que.
N'aie pas honte, Amine, vas-y.
Le but d'Iniesta.
Contre Chelsea?
Pardon?
Contre Chelsea?
Non, en Coupe du Monde.
En Coupe du Monde 2010.
Je pense que Chelsea,
pour la valeur, pour 2010,
ah, peut-être.
La valeur du but.
Quoi. L'importance c'est du but. Ouais.
En deuxième position, je mettrai le but de Zlatan Ibrahimovic.
Contre la Suède. Ouais, celui contre la Suède, avec je parle du ciseau, ouais.
Contre l'Angleterre.
Exactement.
Avec la Suède contre l'Angleterre, ouais.
Et en troisième, je sais plus ce que j'avais dit. Enfin, le but, mon but préféré, je sais plus lequel j'avais dit.
Sergi Roberto.
Ah oui, le but de Sergio Roberto. Voilà.
La remontada.
Exceptionnel, non, parce que c'est lui qui crucifie littéralement les espoirs parisiens. C'est pas le joueur le plus connu de cette équipe à l'époque. Il éclore un peu, enfin, il est en pleine éclosion, même s'il avait 22 ans, je crois, à l'époque, ou 23 ans, je sais plus. Et là, il sort de nulle part. On s'attendait à un Messi, à Neymar ou autre, mais non, Sergio Roberto qui peut jouer en poste de défense droit, qui est incroyable. Incroyable.
Messieurs, décidément, cette Coupe du Monde 2018, elle vous a pas marqué, le but de Pavard, il rentre pas pour vous dans le.
Non.
Il y en a un qu'on.
C'est un très beau but.
Moi, il y en a un qu'on oublie, c'est le but d'Aguero quand Manchester City est champion en 2016. Où il y a un scénario dingue sur un match contre QPR, c'est le dernier match de la saison. Ils sont au coude à coude avec Manchester United. United est champion jusqu'à la 95e minute du dernier match de la saison de City. C'est le match où Joey Barton met un coup de poing dans les parties de Carlos Tevez où il se fait exclure. Il y a Djibril Cissé qui joue à QPR. En fait, les deux équipes jouent le titre sur la dernière journée. Manchester United est champion jusqu'à la 95e minute du match de City, et Aguero surgit, donne la victoire à City contre QPR dans un match de malade mental avec un scénario de fou, et City est champion. Et c'est un but quand même assez t'as l'importance du but du titre. Mais c'est à la dernière minute de ta saison contre ton plus grand rival, donc c'est ça qui est quand même assez incroyable.
Sinon j'en ai un, c'est celui de James Rodriguez contre l'Uruguay en 2014, où il qualifie la Colombie pour la demi-finale. Magnifique. Et franchement, il est à 25 mètres, je crois, qu'il fait un
pour les quarts de finale.
Pour les quarts,
C'est vrai qu'il fait un enchaînement
incroyable, ça tape la barre sous la barre. C'est impressionnant.
Très bien, messieurs, voilà pour le but de la décennie. On me proposait celui d'Aaron Ramsey face à l'AS Rome. Vous vous souvenez aussi de ce petit bijou? Esthétiquement, c'était plutôt pas mal.
Il y a Florenzi en Ligue des Champions aussi quand même, c'est dingue. Je suis rappelé contre le Barça, il me semble.
En tout cas, on va passer au moment insolite, celui qui vous a marqué, la petite surprise de cette décennie. Ça a pas mal fait réagir sur Twitter. On me parle du but du dos de Brandao avec Inter.
Écoute,
vous souvenez de ce but,
contrôle du dos. Mais c'est un but qui compte en plus.
Non, mais devant ce match-là, j'étais chez moi. Je croyais plus. Quand il marque du dos, je suis tellement du fou, je me suis tapé la tête contre le sol, je suis évanoui. Ah non, sans déconner.
Il aurait pu s'évanouir lui-même. Bon, autre moment insolite qu'on propose, et c'est vrai que ça avait pris tout le monde de court, la démission de Bielsa, après une journée.
On est obligé de parler de ça.
Oui, mais ça, c'est hors. Parce que sinon, si on va dans les coulisses.
On va chercher les choses un petit peu. Matière, hein.
Pour moi, il y a une évidence.
Sur la radio de Bielsa aussi.
Ouais. Et alors... Baptiste Allo, je vais le signer. Pour moi, il y a une évidence. C'est la saison où Montpellier est champion. C'est la grosse surprise quand même. Et puis surtout, c'est magnifique, putain. C'est une équipe de potes avec un super, avec René Girard qui maniait ça d'une main de maître et des super bons petits joueurs qui ont fait la saison de leur vie. Belanda, Giroud qui éclot. Non, c'était vraiment Aït Fana qui rentrait, qui mettait le feu. Cabella, c'était une super équipe. Mapouyanga Mbiwa, tout le monde pensait que ça allait devenir un défenseur de classe internationale et tout le monde était choqué qu'il ne fasse pas la compétition internationale suivante. Enfin, c'était un euro avec la France. Non, la saison de Montpellier, c'était vraiment la grosse surprise de la décennie pour moi.
Et Montpellier qui tient tête au Paris Saint-Germain sous l'ère Qatari pour la première saison de l'ère Qatari. Mmh. Damien Perrinel.
Bah justement, pour moi, insolite, c'est l'arrivée du Qatar au PSG. Parce qu'en fait, cette arrivée du Qatar a changé la face de la Ligue 1, en fait. Tout simplement. Les droits télé, les joueurs qui sont arrivés, la dimension européenne du PSG. Sans le PSG, aujourd'hui, il n'y a plus de Coupe d'Europe en France, de toute façon. Enfin,
Est-ce qu'on ne se poserait pas la question de se demander si ça vaut vraiment le coup quand on considère le rôle et les agissements du Qatar sur la scène diplomatique internationale? Mais c'est un autre débat.
On est hors football.
Ouais.
Mais pour moi, ça
change. Sport washing dans toute sa splendeur.
Ça change la face du foot en France, en tout cas.
François?
Ouais. Pour rester sur le terrain, non, moi j'avais pensé à une anecdote, mais c'est évidemment ça va parler à personne, c'est dans le boulot. Mais après, si vous sortez un peu des coulisses, je sais pas, il y en a tellement. Peut-être que moi, j'avais discuté avec Parreira en 2014 quand l'ancien sélectionneur de l'équipe de France refuse de lui serrer la main, parce que c'est vraiment un moment insolite. On s'attend vraiment pas à ça. Et on est déjà au fin fond du trou, on est même au-delà, et puis il refuse de lui serrer la main. Et Parreira m'avait expliqué qu'en fait, non seulement c'était le protocole évidemment et qu'il le respectait, mais qu'il venait aussi dire à Domenech qu'il était vraiment désolé pour tout ce qui se passait pour l'équipe de France. Il me dit, je comprends pas, il me rembarre tout d'un coup, parce que j'avais dit 6 mois plus tôt au tirage au sort que je trouvais que la présence de l'équipe de France était usurpée, volée, parce que le match contre l'Irlande, bref. Il était un peu tombé de sa chaise et Monsieur Parreira est quand même un monsieur dans le monde du foot. Il était entraîneur des champions du monde en 94, donc il méritait aussi le respect. Et voilà pour un fait insolite.
Un fait insolite. Moi j'avais noté le titre de Leicester. Première ligue qui était largement posté par le Big Four de l'époque.
Non, mais
c'était un vrai coup de fraîcheur et pour relancer. Il nous reste 2 petites minutes, messieurs, pour parler de l'entraîneur de la décennie. On va en parler rapidement. On va remercier Amine qui lui avait voté pour Guardiola. Merci Amine d'avoir été avec nous, messieurs. En 2 minutes donc, l'entraîneur de la décennie, Jonathan Macardy.
Marcelo Bielsa, sans justification, c'est comme ça.
Parce que tu l'aimes d'amour.
Ou Jean-Marc Furlan, au choix.
Vas-y, François.
François Manardo.
Vas-y, Zinedine Zidane.
Pour sa Ligue des Champions.
Puisque personne ne l'a fait. Dans l'ère moderne du foot, l'Ajax, c'est 2 entraîneurs. Le Bayern, c'est 2 entraîneurs aussi. Donc, je vais citer Mikkel, Spikovac et la Tech et Kramer. Et Zizou, il le fait 3 fois dans une ère encore plus moderne et plus difficile, dans une compétition tellement relevée. C'est dingue.
Les 3 Ligues des Champions.
Laissez-moi développer 30 secondes, s'il vous plaît. Ralf Rangnick. Pourquoi Ralf Rangnick? Parce que c'est lui qui est l'inspiration des Jürgen Klopp, de Tuchel, qui est en gros, il y a eu Guardiola pour le jeu de possession, et il y a Ralf Rangnick en Allemagne qui a vraiment rénové un style de jeu qui est un jeu de transition, et c'est vraiment lui qui a mis l'Allemagne sur ces rails-là avec Tuchel, avec Klopp, ce qu'il a fait à Hoffenheim, c'était exceptionnel.
C'est clair.
Et derrière, aujourd'hui, tous les coachs qu'on a en Allemagne.
Nagelsmann,
c'est du Ralf Rangnick.
Tu sais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, c'est un mouvement de fond, une lame de fond qui inspire tous les coachs allemands. Mais bizarrement, la sélection reste dans un schéma totalement, quasiment à l'opposé.
Bien que Joachim Löw reste aussi un peu,
de Guardiola de l'école Guardiola que de l'école Rangnick.
Ça peut évoluer. Mais en tout cas, voilà, le foot allemand aujourd'hui, c'est Ralf Rangnick.
C'est noté. Merci beaucoup, messieurs. Moi, j'avais noté Jürgen Klopp principalement en opposition. à Guardiola, ouais. Parce que justement, je vous le disais, j'ai jamais été un grand amoureux du jeu de possession. Je trouve que Guardiola joue une musique classique de la plus belle des manières, avec beaucoup de talent. Il fait jouer ses équipes, c'est sublime, mais ça n'est pas la musique qui me plaît le plus. Et je trouve que Jürgen Klopp propose un football un peu plus rock et ça m'excite plus. Donc ça a été, je trouve que pendant longtemps, on a tellement dit de bien de Guardiola et il le mérite tellement, mais c'était devenu une obligation. On était obligé d'aimer Guardiola, sinon on vous disait, mais si t'aimes pas Guardiola, t'aimes pas le foot.
Exactement.
Bah, je suis désolé. Non. Moi, j'admettais que Guardiola est un football sublime, mais c'est pas celui qui me faisait vibrer.
Je suis complètement d'accord avec toi.
Il dit que ses équipes, s'ils jouent pas de musique classique, mais du heavy metal.
Exactement.
Et ça m'étonne que t'aies pas cité Galtier.
Ah, merci à Paulo Breitner. Hein. Je l'ai eu au téléphone qui m'a aiguillé là-dessus, donc merci à lui.
Messieurs, juste avant de marquer une petite pause, on va faire un petit tour du côté de la 16e journée d'Euroleague avec Jérémy Danzé.
Break pas définitif encore, mais un break sérieux pour l'ASVEL. 67-53, 14 points d'avance désormais pour les Villeurbanais. C'est le plus gros écart de cette rencontre, avec notamment 14 points pour le meneur américain Jordan Taylor, qui répond aux 13 points d'Alexei Shved, le meilleur marqueur de l'Euroleague. L'ASVEL qui fait donc largement la course en tête dans cette partie. 67-53, 14 points d'avance. Il reste 2 minutes 30 à jouer dans le troisième et avant-dernier quart-temps.
Et c'est la mi-temps entre Liverpool et Leicester. Liverpool mène 1-0 sur la pelouse du King Power Stadium. On revient dans un instant. À l'after, on va vous parler de la Coupe de France. On va vous parler également de Première Ligue à partir de 23h. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.